grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Cé Kabouoro, plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Actuellement, il est président de la coordination intercommunautaire du Nord Kivu. Monsieur Cé Kabouoro, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de vous. On va vous présenter auprès des auditeurs des radios Okapi. Je sais que ce nom n'est pas inconnu dans le Nord Kivu.
Est relativement bien connu, effectivement.
Alors, on va vous faire découvrir auprès des auditeurs des radios Okapi. On parlera de votre parcours politique, mais aussi de la fonction que vous occupez actuellement. Vous êtes président de la coordination intercommunautaire du Nord Kivu. Avec tous les problèmes qui se passent au Nord Kivu, c'est l'occasion d'en parler avec vous. Vous allez nous donner votre point de vue par rapport à cette guerre qui sévit dans le Nord Kivu plus de 20 ans maintenant. Mais aussi, vous allez nous donner votre point de vue par rapport aux concertations nationales. Mais avant tout cela, on va commencer par une petite biographie de votre personne. C'est-à-dire qu'on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Rutshuru, dans le Nord Kivu.
Oui, effectivement, je suis né à Rutshuru, dans le Nord Kivu. C'était le 24 octobre 1943, ça fait quand même assez longtemps.
Quand même.
J'ai fait mes études primaires là-bas, tandis que mes études secondaires, je les ai faites à Mungeri d'abord, à Bukavu ensuite.
Pourquoi ce changement?
Parce que à cette époque-là, le Nord Kivu comptait très peu d'écoles secondaires. Il y avait une école agronomique à Butembo, il y avait juste l'Athénée et un lycée à Goma. Tandis que toutes les autres écoles étaient concentrées dans la ville de Bukavu et dans les environs Mugeri et Nyangezi notamment.
Et qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi il y avait moins d'écoles dans le Nord Kivu, à Goma?
Bukavu, c'était la capitale de la province du Kivu.
Du Kivu.
Et okay. On avait donc préféré concentrer l'ensemble des écoles à Bukavu. Voilà pourquoi il y avait concentration des écoles du côté de Bukavu. Après mes études secondaires, je suis entré à l'université Rovaniemi.
Vous avez fait quoi aux humanités?
J'ai fait les humanités gréco-latines et puis je suis entré à l'université Rovaniemi où j'ai étudié en économie. Après quoi
vous avez une licence en économie?
Je suis licencié en économie. Après les études d'économie, je suis entré à la Banque Centrale.
C'était votre premier emploi à la Banque Centrale?
Bon, j'ai eu quelques emplois antérieurs, notamment au ministère.
Pendant que vous étiez étudiant?
Juste à la fin de mes études, disons. Pendant que j'étais en dernière année, j'ai pu me faire inscrire comme fonctionnaire au ministère du Plan à l'époque.
On va y revenir, on va parler de votre parcours professionnel tout à l'heure. Mais parlons d'abord de votre enfance, Rutshuru. C'est là où vous m'avez dit que vous avez grandi, vous avez fait votre école primaire.
Oui, effectivement, c'est là où je suis né et c'est là où j'ai fait mon école primaire.
À quoi ça ressemble, Rutshuru, pour les gens qui ne connaissent pas Rutshuru?
Je dois en parler avec beaucoup de sentiments parce que c'est sincèrement un endroit que j'ai chéri pratiquement. Rutshuru centre, c'est un endroit relativement plat, très fertile, où les gens sont très agréables à fréquenter et où la nourriture est très abondante.
La spécialité, c'est les pommes de terre?
Les pommes de terre, c'est se cultive à quelques kilomètres de Rutshuru, effectivement. Mais la principale spécialité de Rutshuru, c'est ce qu'on appelle les bisamugno.
Les bananes.
C'est une banane qui se prépare un peu comme la pomme de terre et qui est très belle à manger.
J'ai déjà mangé ça, c'est très bon.
Oui, alors.
Mélangé aux haricots.
Absolument. Et l'autre spécialité de Rutshuru, ce sont bien sûr les haricots. D'ailleurs, l'introduction du pondu comme nourriture. C'est tout récent, c'est-à-dire qu'initialement, on considérait quelqu'un qui mangeait les pondus comme un homme paresseux, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable d'élaborer le sol, de produire les haricots, qui donc pouvait pouvoir manger des feuilles. Sinon, la nourriture la plus courante, c'est les haricots et les bisamugno. Bien sûr, à Rutshuru, il y a énormément d'élevages. Élevage de chèvres, élevage de moutons, élevage de bovins, élevage de poules, élevage de tout genre. Donc il s'agit d'une contrée très riche du point de vue agricole et d'une contrée très agréable à vivre.
Alors ça c'était à votre époque ou bien même aujourd'hui quand on va à Rutshuru on retrouve beaucoup de cultivateurs, l'élevage continue?
Bien sûr, avec les différentes guerres qui se sont succédées là-bas,
l'élevage... C'est plus la même vie, ça a changé?
La vie a quand même changé d'une certaine manière. Vous y trouverez bien sûr les bisamugno, comme je vous ai dit, vous y trouverez les haricots, mais Les gros de la population se trouvent dans des camps de déplacés ou dans des cas de réfugiés en dehors du pays, si bien que vous trouvez des villages entiers complètement désertés. Certains champs, certaines plantations de bananiers sont devenues tout simplement la forêt. Donc il y a eu quand même un gros changement avec les déplacements des populations, avec la guerre. Ce n'est plus la même vie, parfois.
Si on vous demandait d'y retourner aujourd'hui pour y vivre, vous allez accepter?
J'y ai fait 11 mois il n'y a pas longtemps, juste avant que la guerre du M23 éclate. J'y ai fait 11 mois parce que je voulais bien comprendre ce que Rutshuru était devenu, la vie que les gens menaient. J'ai redécouvert les liens de mon enfance. Ce n'était plus tout à fait la même chose parce que vous trouviez des armes, des hommes en armes partout, des gens qui pillent, des gens qui volent, des gens qui font du n'importe quoi.
Et là, ça fait mal au cœur, hein, quand on a vécu dans une ville qu'on connaît très bien, où la vie était paisible, et qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus des hommes en armes.
Oui, ça fait très mal au cœur, surtout quand ces hommes en armes se comportent sincèrement comme des bandits. Là-bas, aujourd'hui, tuer quelqu'un, eh bien, c'est comme on prend un verre d'eau sur une table et qu'on le boit. La vie de l'homme n'a plus beaucoup de sens, plus personne ne la respecte, et d'autant plus que il n'y a que la loi du plus fort qui règne là-bas. Il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas d'autorité. La seule autorité, c'est l'arme qu'on détient par devers la main. C'est tout. Alors donc, ça fait énormément mal au cœur de voir.
Et donc beaucoup de gens possèdent des armes là-bas.
Bon, les hommes en armes sont surtout, ce que j'ai trouvé là-bas, c'était les militaires ex-CNDP qui avaient des armes en abondance, mais également, vous avez dans différentes brousses des groupes rebelles qui se baladent avec des armes et qui font toute forme d'exaction sur la population.
Vous avez grandi dans quelles conditions à Rutshuru?
Bon, j'ai eu un père assez entreprenant. Il faisait un peu de commerce et puis on avait des champs. Et alors on avait la nourriture en abondance, je n'avais pas de difficultés pour payer mes études. Il faut dire qu'à cette époque-là, de façon générale, les gens avaient suffisamment de revenus et vivaient à l'aise. Et si quelqu'un n'amenait pas son enfant à l'école, ce n'est pas parce qu'il manquait de moyens. C'est peut-être par négligence ou simplement parce qu'il avait peur qu'en amenant son enfant à l'école, peut-être il allait disparaître quelque part un jour et il n'allait plus le voir. Mais de façon générale, les gens avaient les moyens pour mettre les enfants à l'école, et d'autant plus que ce n'était pas si coûteux que ça.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance, pendant que vous grandissiez?
Ce sont les prêtres.
Ah bon? Comment ça?
Ce sont les prêtres qui m'ont le plus marqué. Une vie très disciplinée, une vie qui est très concentrée sur Jésus, sur Dieu. Eh bien, j'ai gardé quand même cela tout au fond de mon cœur.
Vous les fréquentiez souvent, les prêtres?
Mais ce sont eux qui nous encadraient à l'école primaire et c'est eux qui nous encadraient à l'école secondaire. J'ai vraiment gardé un souvenir merveilleux.
Ça vous a pas tenté un peu d'entrer au couvent?
Non,
ça
m'a tenté pendant un temps, mais bon, après j'ai constaté que peut-être je n'avais pas la vocation et je ne suis pas allé jusque à devenir prêtre. J'ai préféré plutôt la vie que je mène aujourd'hui.
C'est laquelle? Marié, là, père de combien d'enfants?
Je suis marié et je suis père de 11 enfants.
Et de petits-enfants aussi?
Oh, j'ai beaucoup de petits-enfants pour le moment. Je crois que je dois en avoir autour de 18.
Une grande famille.
Là, il y en a qui sont ici à Kinshasa, nombreux. Il y en a d'ailleurs des journalistes comme vous parmi mes enfants. Il y en a qui sont aux États-Unis. Il y en a qui sont...
Ils sont éparpillés un peu.
Ils sont un peu éparpillés. De temps en temps, ils viennent, on se rencontre, on reconstitue la famille.
Okay.
Mais ils sont quand même un peu éparpillés à travers le monde. Voilà.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Bon, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est le manque de liberté. Je n'aime pas ne pas manquer de liberté, c'est-à-dire me trouver à un endroit où je suis contraint de faire ce que je n'aime pas faire. J'aime la liberté.
Alors j'imagine que votre plat préféré, c'est les bisamounio.
Bien entendu. Même ce matin, même hier soir, j'en ai mangé. Donc, c'est vous dire que même si on n'en cultive pas à Kinshasa, je fais tout ce que je peux pour que je puisse en
on
avoir.
On m'envoie des bananes de Rutshuru.
On m'en envoie de Goma, parce que Rutshuru est quand même occupé par les M23.
De Goma, oui.
On m'en envoie de Goma. Mais lorsque Rutshuru n'était pas occupé, j'ai un grand champ là-bas. Et dans mon champ, il y a le bisamounio. On m'en envoyait à partir de mon champ. J'avais également un bon élevage sur mon champ.
Vous avez tout perdu?
Oui, j'ai tout perdu, malheureusement. Je n'ai plus de bovins là-bas. J'avais beaucoup de bovins là-bas. J'avais quelques caprins, des moutons, des lapins, des poules, etc. Eh bien, tout ça est perdu parce que tous ces groupes armés doivent se nourrir et ils cherchent là où il y a la nourriture et partout il y a la nourriture, ils viennent, ils la visent et ils vont se nourrir. Voilà.
Si la paix revenait un jour dans cette partie du pays, vous aimeriez refaire ces activités-là, c'est-à-dire l'élevage,
Malgré la guerre, je pratique encore l'agriculture là-bas. J'ai des engins là-bas pour faire l'agriculture. Si la paix revenait, je vais reconstituer mon cheptel. Mais pour le moment, j'ai produit plutôt des cultures de type vivrière. Mais si la paix revenait, je vais reprendre mes activités d'élevage. J'espère qu'elle va revenir bientôt et que sera définitive.
Radio Capi, grand témoin.
Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Jean Sekabouro. Il est président de la coordination intercommunautaire du Nord Kivu. Il a été plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Vous nous avez dit, après votre diplôme, votre licence en économie, vous avez fait plusieurs jobs. Vous avez commencé par la Banque Centrale ou avant la Banque Centrale, vous êtes passé par d'autres entreprises?
Oui, avant que je ne termine les études, quand j'étais en deuxième licence, j'ai été sollicité pour donner un coup de main à ce qu'on appelait à l'époque les hauts commissariats au plan et à la reconstruction nationale. Alors j'ai donné effectivement un coup de main là-bas, j'étais d'ailleurs payé pour ça. Quand j'ai terminé les études, bien sûr, de façon naturelle, je suis entré au Haut-Commissariat au Plan et à la Reconstruction Nationale. Mais le Haut-Commissariat au Plan et à la Reconstruction Nationale est devenu ce qu'on
a... C'est comme le ministère du Plan?
Oui, c'est comme le ministère du Plan.
Ok.
Et alors, le Haut-Commissariat au Plan est devenu, s'est transformé en office national de la recherche et de développement pendant que j'étais toujours là. Et cet office avait pour rôle non seulement de mettre en place un système de planification et une planification tout court, mais également d'encadrer l'ensemble des institutions de recherche et qui existaient dans le pays. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu m'envoyer à Yangambi. D'abord comme...
dans la province orientale.
Oui, d'abord comme directeur administratif de l'INEAC, donc l'Institut National pour la Recherche Agronomique, devenu INERA aujourd'hui. Ensuite, comme directeur général adjoint et comme directeur général tout court. Mais je n'ai pas pu faire, longtemps parce que, d'abord, je n'avais pas de bibliothèque. Je suis un homme curieux. Je n'avais pas de bibliothèque à côté de moi. Alors, je suis rentré à Kinshasa et j'ai été directement engagé par la Banque Centrale comme analyste.
Et donc, parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque là-bas, vous avez décidé de rentrer à Kinshasa?
J'ai décidé de rentrer parce que je n'avais pas l'encadrement intellectuel que...
Il n'y avait pas des prêtres dans les coins? Parce que souvent, c'est les prêtres, on retrouve des bibliothèques. Il y a tout ce que vous cherchez là.
Non, il n'y avait pas de prêtres là-bas, il n'y avait pas de bibliothèque. C'était un milieu quand même un peu particulier, mais qui n'était pas peut-être pas très bon à vivre. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Yangambi, c'était juste à la fin de la rébellion. C'était vers les années 68, donc à la fin de la rébellion mouléliste, à la fin de la rébellion des Scram.
Alors, de quelques retour temps, à Kinshasa?
Oui, après quelques temps, je crois. Après deux ans, je suis rentré à Kinshasa et j'ai été engagé comme analyste à la Banque Centrale du Congo, à ce qu'on appelait à l'époque le département des études, c'est-à-dire la direction des études. Quatre ans après, j'ai été sollicité pour devenir directeur général d'un service qui était en train de se créer, c'est-à-dire les...
Toujours au niveau de la Banque Centrale?
Non. Là-bas, en fait, on a demandé au gouverneur de la Banque Centrale de proposer quelqu'un qui pouvait gérer
la nouvelle structure qui devait être créée.
Une structure qui devait être mise en place. C'était les services du plan. Et mon nom a été proposé. Et c'est à ce moment-là donc que je suis...
Parce que vous étiez un travailleur?
J'imagine que c'était ça les critères. Dans tous les cas, à cette époque-là, Les critères compétences et les critères ténacité comptaient beaucoup dans la vie professionnelle et je suppose que c'est ça qui a fait que j'ai pu être retenu. Je suis allé au plan d'abord comme directeur général et après le plan est devenu un ministère à part entière et j'ai été nommé à ce moment-là ce qu'on appelait secrétaire d'État. Et le secrétaire d'État aujourd'hui, ça correspondait à vice-ministre.
Vice-ministre.
Bon, j'ai travaillé là-bas pendant, j'ai été là pendant 4 ou 5 ans.
Et là, vous étiez déjà dans la politique,
la politique. Sans le vouloir, j'étais déjà dans la politique. Sans le vouloir, j'étais déjà dans la politique. Après ce parcours, j'ai été remanié. Et je suis allé comme secrétaire d'État au ministère de l'énergie. Où j'ai fait 3 ans. Après cela, on m'a mis dehors. C'est-à-dire, j'ai été remanié je me suis retrouvé sans fonction. Quelques temps
c'était
après.
C'était vers quelle année?
C'était vers les années 83 que je me suis retrouvé dehors. Alors, pendant un certain temps, je suis rentré à Rutshuru. Je suis effectivement rentré à Rutshuru à ma plantation. Et en 86 ou 87, je ne me rappelle pas très bien, on est venu me chercher à la plantation pour me ramener au plan où je suis resté jusque à 1991. À ce moment-là, il y avait la démocratie commençait à s'annoncer. Alors, nous avons été remaniés.
En 91, on était déjà dans le vent de la démocratie.
On commençait déjà à... En tout cas, ça devenait très fort, ça chauffait très fort. Alors, on a remanié le gouvernement et on est entré dans une période de transition. Et je me suis retrouvé encore une fois dehors. Mais en 92,
vous n'êtes plus rentré à Rutshuru dans vos plantations.
Je ne suis pas rentré à Rutshuru, je suis resté ici. Mais en 92, pendant que la conférence nationale était en cours, il était question qu'on puisse former un gouvernement de la conférence nationale souveraine. Ce gouvernement de la conférence nationale qui comprenait les grands partis politiques, dont l'IDPS. Dont les PDSC, j'étais au Parti démocrate et social chrétien à cette époque-là. Eh bien, j'ai passé un test
avec
Iléo, avec le vieil papa Iléo. On nous a fait passer un test pour savoir quelles sont les personnes qui pouvaient entrer à ce gouvernement-là. J'ai passé un test, j'ai réussi mon test et on a proposé mon nom ainsi que celui de M. Bosunga. Nous sommes entrés donc dans le gouvernement de la Conférence nationale qui était dirigé par le Premier ministre Tshisekedi.
Un gouvernement qui n'a pas duré, quoi.
Bon, ce gouvernement n'a pas duré longtemps. Nous sommes entrés en fonction. C'était en septembre 1992. Je crois... 4 mois après.
3 mois, je crois.
Quatre mois quand même après. On est venu nous chasser, nous exfiltrer de nos bureaux. Alors, nous sommes tous retrouvés à la primature. C'est-à-dire, on a ouvert des bureaux, en fait, pour chacun des ministres à la primature. Nous avons essayé de travailler tant bien que mal pendant encore 3 mois avant que Birindwa ne prenne fonction comme premier ministre.
Premier ministre.
Et à ce moment-là, notre gouvernement partait définitivement. Je suis quand même resté à Kinshasa pendant quelques temps.
En faisant quoi? Au chômage?
L'agriculture, je faisais...
Ici, à Kinshasa, vous avez fait l'agriculture?
J'aime l'agriculture. Je faisais l'agriculture dans le Bas-Congo, au plateau de Bateke. Et après, j'ai vu une lettre de la Banque centrale qui me demandait de regagner la banque. J'ai regagné la banque, c'était en 97.
En 97, avant l'arrivée de l'AFDEL ou après?
C'était après l'arrivée de l'AFDEL. Mm-hmm. Je suis rentré à la banque, j'ai regagné mon bureau d'analyste Et bon,
ce sont les nouveaux dirigeants qui vous ont contacté?
Bon, il y avait, c'est pas les nouveaux dirigeants qui... J'ai reçu une lettre de la direction du personnel et qui me demandait de rentrer. Je suis rentré, j'ai pris contact avec les responsables de ma direction d'origine. Et ils m'ont donné un bureau et j'ai refait ma carrière de la banque.
Et là, c'était à quel poste qu'on vous a trouvé?
Bon, donc, j'étais responsable du service qu'on appelait le service finances publiques. Donc,
là où il y avait l'argent.
Non, c'est un service d'analyse. C'est-à-dire que, en fait, quand vous analysez les finances publiques, les recettes, les dépenses, ça vient d'où, ça va où, mais vous ne manipulez pas un seul sou. Donc, c'est simplement,
Vous l'initiez seulement à analyser.
J'aime beaucoup ça. C'est très enrichissant. C'est quelque chose qui vous forme énormément. Ce n'est pas quelque chose qui vous permet de compter l'argent. D'ailleurs, je n'aurais jamais aimé ça.
Pourquoi? Parce que vous serez tenté. Il y a beaucoup de tentations. Quand on voit l'argent passer devant soi à tout moment.
C'est pas, enfin, quand j'étais dans les différents ministères, je voyais passer
des mal d'argent.
Beaucoup de montants, beaucoup de mal d'argent sur lesquels j'avais autorité, mais ça ne m'a jamais tenté d'en prendre parce que c'était pas à moi.
Même pas un peu.
C'est pas à moi, ce n'est vraiment pas à moi.
Voilà, on va souffler un peu, monsieur Jean Sekabou Oro. En fait, Sekabou Oro, c'est une signification particulière parce qu'on sait que les noms africains ont souvent une signification.
Oui, mon nom a une signification assez profonde, même très profonde. C'est-à-dire que si tu vois, si tu es une maman, tu as des enfants, il ne faut pas te moquer de ta voisine si ta voisine n'a pas d'enfant. Ce n'est pas sa faute. C'est des circonstances indépendantes de sa volonté. Voilà la signification de mon nom. Ne te moque pas de quelqu'un quand il casse le cas, celui-là est dans le malheur.
Ah, d'accord. C'est vrai que c'est une signification profonde.
Voilà la signification de mon nom.
C'est votre père qui vous a donné ce nom-là?
C'est ma mère qui me l'a donné. Elle m'a appris après que c'est elle qui m'a donné ce nom-là.
Dites-moi, ça vous arrive de vous détendre un peu en écoutant de la musique?
Me détendre, oui. Oui, je fais des courses à pied. J'ai fait parfois des marches à pied, par exemple, tous les mercredis et tous les dimanches, sur une distance assez longue.
À peu près combien de kilomètres?
Bon, une douzaine, une quinzaine de kilomètres à pied, le mercredi tôt le matin et le dimanche à partir de 8h du matin.
Et vous arrivez d'écouter la musique?
Mais j'ai de la musique dans ma voiture, donc j'écoute la musique quand je roule en voiture.
Quel genre de musique vous écoutez?
Oui, mais il y a les anciennes gloires, par exemple Franco, Rochereau. Mais il y a aussi des choses comme Georges Moustaki et j'en passe. Donc, j'écoute beaucoup de musique et c'est très varié.
Mais s'il y a une chanson que je devais vous dédier, ça serait laquelle?
Pour le moment, peut-être, toi, tu ferais mieux de choisir pour moi. Pourvu que tu choisisses.
J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie de vous mettre une chanson que vous aimez souvent écouter.
La solitude de Georges Moustaki.
Georges Moustaki qui nous a d'ailleurs quittés au mois de mai dernier. Alors pourquoi vous aimez cette chanson, La solitude? Vous aimez rester seul?
Non, c'est un bon rythme, c'est une belle musique.
C'est le rythme juste que vous intéresse par les paroles.
C'est poétique. C'est poétique, c'est philosophique, c'est beau. Alors c'est pour ça que j'aime ça.
J'ai l'impression que quand vous étiez jeune, vous étiez très romantique, à moins que je ne me trompe.
Oui, un peu.
Voilà, on va demander à la technique de nous proposer cette chanson pour votre plaisir et pour les plaisirs de tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment en RDC et à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Merci Patrick de nous balancer la chanson.
Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Je ne suis jamais seul avec ma solitude.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Sikabou Oro. Il a été plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Actuellement, il est président de la coordination intercommunautaire du Nord Kivu. Alors, on va parler de cette structure que vous dirigez. La coordination intercommunautaire du Nord Kivu, c'est quoi au fait?
Bon, c'est une structure qui existe ici, qui existe à Kinshasa, mais qui a ses ramifications à l'intérieur. C'est l'ensemble des communautés du Nord Kivu, l'ensemble des tribus du Nord Kivu qui se sont mis ensemble pour travailler ensemble en fait contre. Dans la structure, vous avez les Nande, vous avez les Hunde, vous avez les Hutu, vous avez les Tutsi, vous avez les Tembo, et puis vous avez les communautés de Walikale qui se sont mis ensemble pour avoir un seul président, et les communautés de Nyiragongo qui se sont mis ensemble pour avoir également un seul président. Donc, cette structure-là que je dirige, qui donc regroupe l'ensemble des communautés du Nord Kivu.
Mais qu'est-ce qui a motivé pour la mise en place de cette coordination? C'est à cause des problèmes qui se posent entre les tribus dans le Nord Kivu que vous avez décidé de mettre en place une structure qui pourra régler ces problèmes, ou il y a autre chose?
Bon, en fait, c'est parce que beaucoup de gens nous reprochaient de ne pas être ensemble. Nous avons tenu à démontrer que nous sommes effectivement ensemble en créant cette structure, mais aussi nous avons estimé que nous devions avoir une structure ensemble pour pouvoir combattre la guerre qui sévit chez nous et qui ne fait que durer, et que nous pouvions donc, à travers les communautés, nous pouvions apporter notre contribution à la fin de la guerre. Et puis, Nous nous sommes dit, la guerre finira. Mais les gens, pendant la guerre, sont devenus d'une pauvreté absolue. Et notre structure doit pouvoir aider la population. Elle doit pouvoir plaider pour la population, pour que cette population puisse quand même recouvrer un certain goût à la vie. Voilà donc les quelques motifs qui ont fait que nous avons mis en place cette structure qu'on appelle Coordination Intercommunautaire du Nord Kivu à Kinshasa.
Et ça existe depuis quand?
Ça existe depuis 2008. Donc ça existe depuis 2008 et nous nous rencontrons pratiquement chaque semaine. Et nous traitons les différentes questions qui se posent et ensemble. Et si et lorsqu'il y a même un petit différend ou héritage entre communautés, nous nous mettons ensemble pour régler cela. Donc c'est quelque chose qui existe depuis 2008 et qui prend, heureusement, nous constatons que ça prend de plus en plus de l'ampleur.
Alors voilà, on va parler actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est le Nord Kivu, c'est chez vous au Nord Kivu, c'est la guerre du Nord Kivu.
Malheureusement, c'est ça.
Et en tant que président de la coordination intercommunautaire du Nord Kivu, vous avez fait une déclaration dernièrement, hein, une déclaration quand même assez forte, hein, par rapport à ce qui s'est vécu dans la partie est de la RDC et même par rapport aux concertation nationale pour justement parler de ce problème du Nord Kivu. Vous demandez à ce que le président puisse revoir à la hausse les nombres de ceux qui vont représenter le Nord Kivu à ces concertations.
Oui, je crois que moi je vous donne l'exemple des médecins. Lorsque un médecin est en train de diagnostiquer un malade, si le malade n'est pas là, je ne sais pas comment il va administrer les médicaments. Je pense que les concertations, le principal objectif des concertations qui vont avoir lieu aujourd'hui, c'est la cohésion nationale. Eh bien, là où la cohésion nationale est sérieusement en déroute, c'est dans le Nord Kivu. Et là où, même quelle que soit la matière qu'on doit traiter dans les concertations, elle concerne principalement le Nord Kivu. Le Nord Kivu a une économie complètement désarticulée, c'est-à-dire que les gens sont enfuités à gauche et à droite, ils sont devenus extrêmement pauvres, la vie sociale n'existe presque plus. Le Nord Kivu, c'est la guerre à tout moment, les M23 qui tirent sur les gens, la Defnaru qui chasse les gens à Kamango. Bref, comme vous l'avez si bien dit, l'actualité, elle est plutôt braqué sur le Nord Kivu. Nous estimons, nous sommes mis ensemble effectivement avec les députés du Nord Kivu, donc l'ensemble des communautés plus leurs députés, nous sommes mis ensemble et nous avons fait cette déclaration pour demander que le président puisse revoir à la hausse les nombres de délégués pour que le Nord Kivu puisse participer abondamment à ces assises.
Mais vous pensez que ceux qui sont les délégués qui sont là pour le moment ne vont pas transmettre les messages de la population du Nord Kivu? Est-ce qu'il faut, à quoi ça sert d'ajouter encore d'autres députés ou d'autres délégués du Nord Kivu? Ça changera quoi?
Nous avons fait les comptes, peut-être comme c'est, nous ne savons pas très bien comment les choses s'organisent, nous avons fait les comptes, mais nous avons constaté que il y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde du Nord Kivu dans ces concertations. Et nous nous sommes dit qu'il fallait quand même que le Nord Kivu soit là parce que nous voulons être représentés dans toutes les commissions qui seront constituées. Parce que chacune des commissions, que ce soit les développements, les conflits communautaires, toutes les thématiques, nous sommes intéressés par ces thématiques-là. Et par conséquent, nous voulons être suffisamment abondamment représenté dans ces concertations pour que nous puissions avoir des délégués dans chacune de ces thématiques-là. Donc, quand nous avons fait le compte, nous avons estimé que, d'abord, nous n'étions pas représentés au groupe de contact, et alors, comme on n'était pas représenté au groupe de contact, quand on regarde les personnes qui, de façon naturelle, peuvent entrer aux concertations, on a l'impression que nous n'avons rien et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité qu'on puisse revoir à la hausse notre représentation aux concertations nationales.
Alors, il y a eu aussi Kampala, c'est aussi une actualité. En fait, c'est lié à Kampala, Nord Kivu, concertation. Les résolutions issues de ce sommet, 7e sommet des chefs d'État de la CIRGL, Alors on demande au gouvernement au M23 de reprendre le chemin de Kampala. Ça vous arrange?
Je suis membre de la délégation de Kampala.
Pour le compte du gouvernement?
Pour le compte du gouvernement et de la République démocratique du Congo. La première chose que je dois dire est que je partage le scepticisme de la population du Nord Kivu. La population du Nord Kivu vient de vivre une guerre qui dure depuis 20 ans et le M23 n'est qu'une étape de cette guerre-là. Pendant que s'est déroulée cette guerre, il y a eu beaucoup de négociations. Mais on a eu l'impression que ces négociations jetaient les bases d'une nouvelle guerre. Et c'est la raison pour laquelle les populations du Nord Kivu sont aujourd'hui sceptiques quand on parle de négociations. Néanmoins, ayant participé aux négociations qu'on a eues avec le M23, je connais la position qui avait été prise. Cette position est assez rigide. Cette position, elle est très ferme vis-à-vis du M23. Et je crois qu'il n'y aura aucune raison de changer cette position. Par conséquent, tout ce que je peux conseiller à mes collègues, c'est de maintenir le cap. C'est-à-dire, il n'est pas question qu'on puisse donner des primes de guerre aux seigneurs de guerre. Il n'est pas question que les gens puissent venir pour dire « j'ai fait la guerre pendant ».
Mais vous pensez qu'ils vont aller parler de quoi?
Normalement, tout ce qui devait être dit a déjà été dit. C'est-à-dire, les chefs d'État de la CIRGL, lorsque Goma était occupé par le M23, avaient demandé au M23 de quitter la ville de Goma, moyennant négociation, et avait donné un mandat aux négociateurs. La thématique était que on devait réexaminer l'accord du 23 mars 2009, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été exécuté et qu'est-ce qui n'a pas été exécuté.
Et ça a été fait.
Ça a été fait, un document a été signé à ce sujet. Donc, et nous avons pu constater, lors de l'examen de ces documents, et nous avons signé avec le M23, que le plus grand violeur des accords du 23 mars 2009 n'était pas le gouvernement. C'était plutôt le M23 parce que à l'article 1er de cet accord du 23 mars 2009, il est dit que le CNDP, dont le M23 est l'héritier aujourd'hui, le CNDP ne pourra jamais recourir aux armes pour quelque raison que ce soit au cas où une disposition de cet accord était violé. Donc, il était spécifiquement recommandé que seules les voies de dialogue pouvaient servir pour résoudre les conflits issus de cet accord-là. Alors, le M23 a pris les armes et par conséquent, il avait violé l'article 1er de l'accord. Nous avons examiné tout ça, nous avons signé un document pour dire que le plus grand violeur, c'est bien le M23. Maintenant, pour le reste, le deuxième point, en fait, la deuxième thématique qui devait être examinée au cours du dialogue de Kampala, c'était écouter ce que les chefs d'État avaient appelé les revendications légitimes du M23. Le M23 a produit un document. Nous avons écouté ces revendications. Nous avons constaté qu'il y en a qui sortaient de...
De l'accord même du 23 mars.
Qui sortait de l'accord du 23 mars et de notre dialogue. Et nous avons mis tout ça sur un papier. Et normalement, on devait tout simplement constater que on a examiné l'accord, on a écouté le M23 et publié un communiqué final et ça s'arrêtait là. Donc on n'avait pas besoin. On n'avait pas nécessairement besoin d'organiser une rencontre qui devait durer longtemps, mais après l'examen de l'accord du 23, après la revue de l'accord du 23 mars 2009, nous avons fait un projet, nous avons proposé aux facilitateurs un projet d'accord avec le M23. Il revenait au facilitateur de répondre, il n'avait pas répondu. Tout ce que je peux recommander à mes collègues.
Quelle chance vous donnez à ce énième dialogue entre le gouvernement et le M23?
Mais la seule chose qu'il faudrait avoir, je crois, il faut permettre peut-être à l'Ouganda d'atterrir, le médiateur. Il faut lui permettre d'atterrir. Mais la seule chose à laquelle nous voulons qu'on puisse arriver. Nous voulons bien que les M23 déposent les armes et que nous puissions intégrer les soldats du M23 jusqu'au grade de sous-lieutenant. On m'a dit tout récemment qu'on voulait ajuster pour aller jusqu'au grade de lieutenant, et ça se limiterait là. Mais, même à ce niveau-là, il existe un règlement militaire auquel l'admission dans l'armée contraint les personnes qui veulent entrer dans l'armée. En ce qui concerne les officiers du M23, eh bien, leurs dossiers pourront être examinés au cas par cas. Mais ce que je pourrais dire aux gens du M23, en fait, ils ont déclenché une guerre sans raison. Et il n'y a pas de raison qu'ils puissent continuer dans aveuglement, dans ce qu'il faut. Il faut tout simplement qu'ils déposent les armes et qu'ils permettent à la population de Rutshuru de respirer.
Et à toute cette population de Rutshuru, de Goma, de Kanyabayonga, du Nord Kivu en général, qui nous suit, qu'est-ce que vous leur dites en tant que notable aussi du Nord Kivu?
D'abord, je compatis sincèrement avec eux pour toutes les bombes qu'ils ont subies sur la tête dans la ville de Goma et pour tous les calvaires qu'ils subissent journellement avec les soldats du M23. Et je pense qu'ils ont pu observer que les phares d'essai ont pris une allure tout à fait différente de celle qu'ils avaient avant, et cela avec les concours de la brigade d'intervention, ça nous donne l'espoir. J'espère que dans quelques temps, et dans un temps, disons, dans un délai qui n'est pas du tout éloigné, j'espère que nous allons nous voir très bientôt, parce que je sais qu'ils souffrent énormément, je sais que tout le monde partage notre souffrance, mais je sais surtout que aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à notre armée et à la brigade d'intervention.
Jean-Sic Bourreau, je vous remercie. C'était un plaisir d'échanger avec vous dans Grand Témoin.
Je vous remercie beaucoup, Madame Kivi. J'étais très heureux de faire votre connaissance et de participer à votre émission. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup et bon dimanche.
Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jean-Sic Bourreau, plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Actuellement, il est président de la coordination de l'intercommunautaire du Nord Kivu. Merci à Patrick Kiasonga qui a assuré la mise en onde de micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.